Alors, premier sujet pour les commissaires ce matin, des chiffres qui montrent à quel point il y a des poches de pauvreté importantes à Montréal, puis on le dit, même des pauvres qui travaillent. T'as beau travailler, mais tu demeures pauvre. Alors, un Montréalais sur 10 qui a dû utiliser des banques alimentaires durant la crise.
Écoute, on peut pas être insensible à ça, Paul. C'est vraiment une situation incroyable. 1 sur 10, puis quand on cherche un peu, on creuse un peu, on se rend compte que c'est probablement un autre 1 sur 10 qui en aurait besoin, mais qui choisit de ne pas y aller parce qu'ils veulent pas avoir l'air de gens dans le besoin. Ils sont fiers et ils décident de pas le faire. Donc, c'est près de 2 foyers sur 10 à Montréal. Mais on n'est pas surpris. La réalité, c'est que cette pauvreté-là est pas arrivée à cause de la COVID. Ce qui est nouveau, par contre, c'est qu'il y a beaucoup de Québécois qui sont en train de goûter à des restrictions financières, goûter à la vie des gens qui sont dans le besoin. Et heureusement, dans bien des cas, ça va être temporaire. On pense que l'économie va redémarrer. Ces chiffres-là sont effarants, mais il y a quelque chose qui me fâche là-dedans. Tu sais, c'est quand tu regardes aujourd'hui les organismes qui s'occupent de nourrir les familles, il y a Moisson Montréal, il y a la Tablée des chefs, le Club des petits déjeuners, c'est des organismes extrêmement importants qui sont soutenus par des entrepreneurs sociaux, hein. Moi, ce qui me fâche là-dedans, c'est comme si on avait délégué des responsabilités sociales à des entreprises qui sont nourries par quoi? Qui sont nourries par des dons. Et donc, ces gens-là aujourd'hui qui jouent le rôle que l'État devrait jouer, s'assurer que les gens n'aient pas faim, s'assurer que les enfants qui vont à l'école n'aient pas faim et soient capables d'avoir des bonnes notes, mais aussi la question de l'itinérance, c'est aussi ça, les dépendances, c'est aussi ça, les femmes battues. On a tout un système aujourd'hui qui est bâti autour de l'entrepreneuriat social, autour des organismes communautaires et qui comptent sur ces dons, dont près du tiers du temps va être passé à lever de l'argent, là. Au lieu de s'occuper de gérer ce que l'État ne fait pas, mais le gérer à leur place, eux perdent leur temps, je mets ça en guillemets, là, bien entendu, mais passent une grande partie de leur temps à lever de l'argent. Et quand tu regardes l'argent que ça représente, là, OK, le budget de l'organisme, des trois organismes auxquels je faisais référence, rajoute-en une coupe, là, c'est probablement 25 à 30 millions de dollars par année. Il n'y a pas un programme qui a été annoncé, le plus petit programme qui a été annoncé pendant la COVID qui dépassait pas 25 millions. Et ça, paf, t'es en mesure de régler un problème de faim à Montréal, un problème de faim qui est là depuis toujours. Et je me dis, tabarouette, il est temps qu'on réfléchisse à comment, enfin, revoir comment est-ce qu'on va soutenir nos organismes communautaires.
Luc.
C'est intéressant ce que tu dis, Alexandre. C'est pas la première fois que tu le dis, puis je reconnais là, ta passion puis ta cohérence sur ce sujet-là. Ça mérite effectivement une discussion. Mais en règle générale, ce qu'on a toujours dit, c'est que l'État au Québec intervenait beaucoup trop, puis quand on le compare avec ce qui part aux États-Unis, par exemple, où il y a aussi des banques alimentaires extrêmement actives, puis un niveau d'implication dans la charité, entre guillemets, là, la philanthropie, et on dit c'est aussi la part, il y a aussi des groupes communautaires, il y a aussi des entreprises qui doivent s'impliquer, on ne doit pas tout mettre ça sur le dos de l'État, parce que sinon, tu vas faire quoi? Tu vas avoir un organisme hyper, hyper bureaucratisé, tu sais que des cadres dans le communautaire, ça gagne 16 $ de l'heure, hein? Puis des cadres dans la fonction publique, ça en gagne 40 $ de l'heure. Alors, moi, je suis intéressé à ce que tu dis, mais je pense qu'il faut l'approfondir. Puis je pense qu'on aura toujours besoin de ces groupes-là aussi. Maintenant, j'aimerais revenir sur le sujet de 12 % des Montréalais qui ont fait affaire à des banques. Tu le dis, il y a plus que ça qui aurait été si ça n'avait pas été de leur réticence. Et une statistique qui fait encore plus peur, c'est que si l'économie ne démarre pas assez vite, il y aurait un Québécois sur 5 qui ne pourra pas nourrir sa famille à la fin de l'aide gouvernementale. Puis un répondant sur 4 qui s'attend à devoir aider un proche de sa famille si jamais l'aide cesse et que l'emploi reprend pas. Alors là, on revoit les vraies statistiques sur qui sont les gens qui vivent d'une paye à l'autre, qui sont les gens qui vivent d'une semaine à l'autre, et c'est beaucoup, un Québécois sur 4, là, c'est nos voisins, c'est les membres de notre famille.
Mais moi, je veux revenir sur un point entre ce qu'Alexandre puis tu dis, puis ce que Luc dit. Moi, un organisme communautaire, là, il faut surtout pas que l'État se mêle de ça. Là. C'est-à-dire que, oui, pour le financement, puis je vais donner l'exemple de Roland Barbier puis du Centre communautaire Hochelaga, là. Si l'État devait exécuter les mandats du centre communautaire, puis organiser des opérations, puis les camps de jour, puis ça, là, ça coûterait 10 fois le prix. Et si tu n'as pas ces organismes communautaires, dans les faits, tu as beaucoup moins de services pour les gens. Puis surtout, ça va te coûter la totale. Fait que tout ce qu'ils ont besoin, c'est, appelons ça, une certaine sécurité au niveau du financement. Mais pour le reste, tu ne veux pas les voir. Là. Tu ne veux pas voir le gouvernement débarquer dans ça, là.
Moi, c'est ce que je pense. Je suis entièrement d'accord avec toi, Paul. L'idée là-dedans, c'est pas d'étatiser le communautaire, c'est pas d'étatiser les entrepreneurs sociaux. Faut comprendre à quel point est-ce que ces gens-là sont importants dans le paysage, mais c'est pas normal qu'ils passent le tiers de leur temps à lever du financement. C'est pas normal que l'État représente 20% du budget de ces organismes-là et qu'on n'ait pas du financement pérenne. Tu y as fait référence, là. Tu sais comme moi, Paul, là, combien de fois est-ce que les organismes reçoivent la confirmation de leur budget de mai? Voyons donc!
Ben non, mais ça, c'est je dirais, c'est assez récurrent. Puis c'est vrai pour des organismes communautaires, c'est vrai pour des organismes culturels. Mais sur... Moi, il y a un bout que j'ai la misère à comprendre, là. Parce que quand même, c'est du monde, 1/10, là. Puis peut-être plus. Mais on n'était pas dans une période de grande prospérité économique avant, là. C'est-à-dire que tout allait bien, puis qu'on cherchait du monde, puis qu'on manquait de main-d'œuvre.
Oui, puis le taux de pauvreté a beaucoup diminué. Depuis 2012, là, il est passé de 20% à 8%, là. C'est énorme. Excuse-moi, je viens de me mélanger dans deux statistiques. Il vient de passer de 15% à 8,7%. C'est énorme. C'est gigantesque. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'évolution dans la pauvreté, dans la lutte à la pauvreté. Mais les gens qui sont pauvres sont de plus en plus pauvres. Et il y a un nom à ça, la première cause de ça, le logement. La disparition des petits loyers, la disparition des maisons de chambre, les personnes âgées qui se font expulser de leur loyer parce que c'est transformé en loyer plus chic, c'est fréquent. Et ces personnes-là, souvent, sont des revenus fixes. Ils vivent sur la pension alimentaire, ils vivent sur le régime des rentes du Québec. Ils ne s'en sortent plus. Et après ça, tu as toutes les autres formes de pauvreté, là. Bon, premièrement, tu as des personnes sur l'aide sociale. On n'en a pas beaucoup parlé pendant la crise. Eux n'ont pas le droit à la bonification de leur revenu. L'autre affaire, c'est le travail au noir, les femmes de ménage, les hommes à tout faire, les serveurs, les serveuses occasionnelles. Bien là, ces gens-là, ils n'ont pas le 5 000 $ de revenu que ça prenait pour démontrer que tu as le droit à l'aide. Après ça, tu as toutes les situations réglementaires un peu floues, là. Il y a des gens très, très pauvres, problèmes de santé mentale, ils ne font pas leurs impôts. Des gens qui travaillent, des immigrants sans statut. Puis aussi, tu as des gens qui vivent sur l'aide sociale, mais avec l'aide des proches aidants. Comme par exemple, la maison a un problème, ben je te répare ton toit ou je t'aide une fois de temps en temps, je t'envoie un chèque. Mais cette personne-là qui a envoyé le chèque, elle ne l'envoie pas pendant la crise. Alors, c'est ça la pauvreté. C'est un cocktail de toutes sortes de situations complexes, puis de travail un peu au noir, puis un peu temporaire, puis un peu un revenu d'un proche aidant ou un revenu de pension alimentaire. Et ce cocktail-là, il tient plus pendant la crise.
Puis tu rajoutes à ça, naturellement, le fait que les enfants qui allaient à l'école, qui allaient dans les CPE, ces centres-là jouent un rôle plus fort que l'éducation. Ils nourrissaient aussi les enfants. Et là, les familles sont prises avec ça, des dépenses supplémentaires. Il faut revenir là-dessus. C'est tellement un sujet important, tellement un sujet grave, et il y a des solutions.
Pause et au retour, on va parler du réseau Express Vélo. Hein, et entre autres, c'est la transformation de la rue Saint-Denis. L'autoroute 20, oui.